Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, on va réécouter ensemble les meilleurs extraits des émissions de la semaine. Et on commence avec le Loft Music. Lundi, Yvan Cujus recevait l'acteur Gérard Lanvin, qui s'est aussi lancé dans la chanson. D'ailleurs, il vous a offert un live inédit extrait de son nouvel album Ici-bas. Et une grande chanteuse dont Gérard Lanvin est fan lui a fait une très belle surprise en direct. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Et il y a autour de cette table en live Bako Mikaelian à l'harmonica. Il y a Manu Lanvin à la guitare et Gérard Lanvin au chant sur Sud Radio tout de suite dans le Loft.
J'aurais pu tout ignorer, faire comme si de rien n'était. Je pourrais marcher dans tout ce qu'on m'a raconté. C'est à moi d'en décider du haut de mon building. Je fixe l'horizon. Je rêve d'amour, de feeling et de bonnes intentions. Rester dans l'évasion. Mais mon esprit voyeur a besoin du tumulte des hommes, de la bêtise, des crises, de la convoitise et du manque d'humanisme du haut de mon building. Je pense un peu trop la nuit, je parie sur le fanatisme, l'horreur, l'abîme et la ruine. L'abîme et la ruine, allez à toi Bako.
Là-bas.
On peut toujours tout écrire, tout montrer ou tout vouloir dire. Au son d'une voix, se laisser embrouiller. Mais je me réserve avec plaisir du haut de mon building le droit de vous contredire, d'espérer, d'imaginer des hommes un peu plus subtils. Rêver d'amour, de feeling et de bonnes intentions. Évitez vos débats. Ouais.
Restez dans mon émotion.
Gérard Lanvin avec Manu, avec Bako Mikaelian dans cet extrait de l'album qui s'appelle Ici-bas à l'instant du haut de mon building. Merci, c'est un plaisir de vous avoir.
Merci.
Il va y avoir des festivals, j'imagine, quelques concerts.
Quelques, pas les moindres en fait.
L'Olympia le 27 mai 2022. Et puis peut-être quelques festivals. On a parlé d'ailleurs, tiens, des festivals, on va voir, j'espère que ça va bien se passer cette année. On était avec Gérard Pont, Gaëtan ouais. Roussel il y a peu de temps. On parlait de la programmation des Francofolies qui va être magnifique. Et notamment, je vous recommande un concert d'Erita Mitsuko avec Catherine Ringer qui chante l'Erita Mitsuko. Ce sera précisément le 14 juillet exactement.
Je suis fan de Catherine Ringer et d'Erita Mitsuko. Fan, absolument.
Ah bon.
Oui, absolument.
Pourquoi, Gérard, qu'est-ce que tu aimes chez Catherine Ringer?
D'abord, la transmission qui s'est passée. Parce qu'elle chante aujourd'hui accompagnée de son fils aussi, qui est une énorme pointure. Et puis Fred Chichin qui n'est plus là et qui, à la fin du spectacle, est représenté par son chapeau. Et puis ce spectacle, quoi. Et les paroles. Sur une musique endiablée, elle a des paroles, quand tu entends le petit train, tout ça, c'est magique.
Ah, tu sais, vous vous rappelez de Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault à l'époque, tu sais, il y avait des surprises. Eh bien, regarde. Bonsoir Catherine Ringer.
Allô. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard.
Bonsoir
Manu,
Catherine.
Bako Mikaelian qui
voilà,
était
Mikaelian.
Voilà.
Ah, je suis très honoré, Catherine.
Ça me fait très plaisir de venir faire un coucou.
Merci mille fois.
C'est très gentil, Catherine.
Je vous aime beaucoup aussi.
C'est chouette, je lui ai demandé à Catherine et très spontanément elle m'a dit mais oui, et parce que je sentais voilà, des affinités.
Je suis fan. C'est fan, ça veut dire j'ai un tel respect pour.
De la vie.
Ouais.
Alors c'est le blues.
C'est le blues. On s'essaye. Hein. On repart dans une autre émotion. Ouais, super.
Ouais, c'est bien.
Ouais.
Catherine Ringer.
C'est bien parce qu'en plus quand tu chantes. Comme tu vraiment tes paroles sont vivantes dans ta bouche.
Merci.
C'est agréable de. T'as une bonne voix. Les mélodies sont bien et puis les mots sortent nous tous directement. C'est ça qui est bien quoi aussi.
Merci beaucoup.
Catherine Ringer et Gérard, vous avez senti à un moment donné la possibilité dans vos carrières respectives, parce que vous avez été quand même vous êtes toujours très exposé médiatiquement, de perdre un peu les pédales ou de quitter un peu, d'avoir la tête qui enfle ou les chevilles, ou non, jamais, ça c'est non ?
Non, j'ai la force avec moi grâce à ma famille. J'ai une femme qui ne m'aurait
Jennifer,
pas autorisé une demi-seconde de me la péter, quoi.
Ouais.
Vraiment pas.
Qu'est-ce qu'elle aurait fait sinon ?
Ah, elle me l'aurait dit, mais t'es nul, quoi, t'es ridicule. reprendre l'espoir sur toi-même, quoi.
Ouais.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et bien sûr, pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous chaque jour de 20h à 21h dans le Loft Music. Restez sur Sud Radio, on sera de retour dans un instant avec Philippe Rossi et l'équipe des Vraies Voix qui ont fêté ensemble les 100 ans de la radio. Et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, le journaliste et écrivain Franck Ferrand. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les week-ends et de réécouter avec vous des extraits des émissions de la semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Mardi, Philippe Rossi et ses chroniqueurs ont tenu évidemment à fêter les 100 ans de la radio et des 40 ans de libération de la bande FM. Le tout avec un invité exceptionnel, René Girma, ancien journaliste de Sud Radio à l'époque où elle s'appelait Radio Andorre. Écoutez.
Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres, onde moyenne.
Eh bien, vous entendez les grosses têtes.
S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris.
Et c'est parti, bienvenue sur Skyrock, content de vous retrouver en ce lundi soir.
J'attends pas que ça tombe du ciel, si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du ciel.
Eh oui, bonne fête à Sud Radio et à toutes les radios puisque ce sont les 100 ans de la radio. Bravo à Jamel pour ce petit condensé. Vous avez reconnu les grosses têtes, Coluche sur Europe 1, Skyrock, voilà. Avec Difool, la radio a 100 ans. C'est aussi les 40 ans de la libération de la bande FM. Et alors pour fêter ça ce soir, je vous propose de faire un petit retour en arrière et d'accueillir une ancienne figure de Sud Radio en la personne de René Girma. Bonsoir mon cher René Girma.
Bonsoir Philippe Rossi.
Mais c'est un plaisir, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue dans votre maison mon cher René, hein. Bienvenue à vous.
Alors... Non.
Ah bah si, c'est un petit peu votre maison, voilà, vous êtes de retour dans la maison.
La radio appartient à ceux qui la font.
C'est vrai aussi. Si vous écoutez Sud Radio depuis de nombreuses années maintenant, j'imagine que vous vous souvenez de René Girma. Alors René Girma qui a commencé en 1967. On va faire un petit peu l'historique de Sud Radio avec vous René Girma. On me dit souvent, ouais mais l'ancêtre de Sud Radio c'était Radio Andorre. Non. René Girma, un petit peu d'histoire, bien précisé qu'il y avait deux radios distinctes à l'époque, Radio Andorre et donc l'historique de Sud Radio, l'ex-Sud Radio qui était la Radio des Vallées.
Oui, tout à fait. L'histoire des radios en Andorre, vous savez, c'est un feuilleton. C'est un feuilleton extraordinaire. Hein. On part de très très loin, on part de 1935. Il y a un Andorran, dans sa corbeille de mariage, il y a une autorisation d'émission radio depuis la principauté d'Andorre. Et c'est Jacques Trémoulet, c'est un homme d'affaires et un homme de radio, qui va inventer Radio Andorre, parce que tout commence avec Radio Andorre. Celui qui avait créé Radio Toulouse et d'autres radios, Jacques Trémoulet, donc, avant l'Andorre, il avait raté son arrivée au Luxembourg, figurez-vous. Il voulait faire une radio dans le Grand-Duché, il n'y parvient pas, donc il revient dans le Sud, et c'est en 1939 que va naître Radio Andorre, radio privée, en principauté d'Andorre, et cela va durer jusqu'en 1981. Ça, c'est pour l'histoire de Radio Andorre. Ensuite, on en vient, si vous le voulez, à Sud Radio.
Allez-y.
Alors, vous savez que depuis Henri IV, l'Andorre a deux coprinces. L'un est espagnol, c'est l'évêque de la Seu de Urgel, et l'autre, c'est le président de la République française. En 1951, le président de la République française est socialiste. Il s'appelle Vincent Auriol. Vous savez, ici, on dit Vincent Auriol, on fait la liaison. Ouais. À l'époque, les socialistes et les radicaux, on va le dire comme ça, ne partent pas en vacances ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme Radio Andorre est très ami avec les radicaux et la Dépêche du Midi, Vincent Auriol, le socialiste, veut sa radio pour concurrencer Radio Andorre et l'influence de la Dépêche. Nous sommes là en 1951. Donc une deuxième société de radio est créée en Andorre. C'est l'État français qui est à la manœuvre et la première société va s'appeler Andorradio. L'Andorre a donc deux coprinces et puis elle a aussi un gouvernement andorran qui veille sur ce qui se fait en Andorre. L'Andorre, c'est un État souverain, donc le gouvernement défend cet État souverain et regarde tout ce qui se passe. En 1954, on change de président, c'est René Coty qui arrive. Les choses radiophoniques vont traîner en longueur et en 1958, c'est le général de Gaulle qui revient au pouvoir. Les gaullistes sont tout contents de trouver en Andorre un embryon de radio. Et c'est en 1958 que démarre ce que l'on appelait pudiquement des essais. On faisait des essais d'émetteurs. En 1961, finalement, vous voyez, nous sommes en 2021, donc 1961-2021, nous tombons juste, un accord sera trouvé pour que les deux radios, c'est-à-dire Radio Andorre et Sud Radio, émettent depuis l'Andorre. Et pour éviter toute confusion avec la rivale, on va changer de nom. Andorre Radio devient la radio des vallées d'Andorre. Radio Andorre garde son nom. En 1966, la radio des vallées d'Andorre devient Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Avec un émetteur de 900 kW, puissant émetteur, la station va devenir une périphérique, on peut le dire, très très écoutée.
Ah oui.
En 1981, nous sommes 20 ans après les premiers accords, la principauté d'Andorre ne reconduit pas les accords qui avaient été conclus, qui autorisaient les radios à émettre. Radio Andorre, il n'y avait hélas que des dettes, va s'arrêter définitivement. Sud Radio aura l'autorisation d'émettre depuis la France. 81, ça vous dit quelque chose, hein, c'est la
bien
libération
sûr,
des ondes.
Oui.
Donc Sud Radio sera autorisé en France. Et si on parle de la période récente, en 1987, Pierre Fabre, les laboratoires Pierre Fabre, prennent le contrôle de Sud Radio. En 2010, c'est le groupe Start qui remplace Pierre Fabre. Et nous arrivons à 2013, et là,
voilà,
c'est Fiducial qui arrive.
Exactement.
L'aventure radiophonique continue.
Et l'aventure continue. Juste pour terminer avec vous, René Germain, voilà, parce qu'en 1983, il y avait une émission sur Sud Radio, était invité Jacques Chirac, qui disait à l'époque beaucoup de bien, c'est ça, racontez-nous en une petite minute, René Germain, beaucoup de bien de Sud Radio à l'époque, Jacques Chirac.
C'est exactement en 81, nous sommes pendant la campagne électorale, on sait qu'en 81, François Mitterrand va être élu président de la République, et nous avions été à Castres, on fait les débats comme d'habitude avant toutes les élections, et là c'était depuis Castres, Jacques Chirac était l'invité de Sud Radio, alors il s'est un peu lâché, il a dit beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien de Sud Radio.
Bon, allez, on l'écoute.
Monsieur Germain, je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement Sud Radio de m'accueillir. Sud Radio est une radio dynamique, sympathique, objective, et je suis sensible au fait qu'elle ait bien voulu, à Castres aujourd'hui, s'installer pour m'interviewer.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Philippe Rossier et toute l'équipe des Vrais Voix, rendez-vous dès lundi de 17h à 19h. On continue maintenant avec un extrait de la matinale de jeudi. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Franck Ferrand, journaliste et écrivain spécialisé en histoire, venu présenter son livre « 100 lieux pour découvrir la France », un livre sous forme de guide pour découvrir les trésors culturels de notre beau pays.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Franck Ferrand, bonjour Franck.
Bonjour à tous les deux et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Franck Ferrand, le passeur d'histoire, j'adore ce mot. Animateur de radio, de télévision, vous avez écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation de l'histoire. Et là, aux éditions Flammarion, un magnifique livre, Les 100 lieux pour découvrir la France. Avec vous, 100 lieux magnifiques, c'est-à-dire qu'on ne sait que choisir.
Oui, alors la France du Sud, mais aussi un peu la France du Nord. Il faut le dire
partout. Et celle de Poitiers aussi.
Toutes les Frances, mon cher Franck Ferrand. Non mais il y a déjà beaucoup de guides touristiques,
oui,
etc.
C'est pas un guide,
là il a quand
fait.
Même non mais c'est ça. Voilà. Mais il a deux trois originalités. Hein, expliquez-nous.
Alors d'abord, la première chose, c'est que nous n'avons retenu que 100 lieux. Vous imaginez, il y a 36 000 communes en France, il y a 42 000 églises, il y a plus de 25 000 châteaux visitables. C'est colossal. Et sur tout ça, nous n'avons pas retenu 1000 lieux comme font généralement les guides, nous en avons retenu 100. Donc c'est la, comme diraient les Anglais, la crème de la crème. Vous savez, on a vraiment essayé de choisir des choses qui sont soit incontournables, soit sont des coups de cœur, des lieux qui, moi, m'ont marqué dans ma vie et que j'avais envie de faire partager avec les gens. C'était vraiment
Alors, il y a des sites naturels, il y a des lieux mythiques, des monuments historiques, des édifices religieux, des musées, on parle même
Des jardins, des sites naturels,
oui,
tout
et
ça.
De, voilà. et de grands commerces, de lieux de commerce,
oui.
Puisqu'on va même parler des galeries Lafayette,
oui,
de ce dôme magnifique.
Je trouvais qu'à Paris, il y a un chapitre sur Paris, je dis tout de suite un sur tous les chapitres,
oui.
Il y en a un sur Paris, sur les 10, et à Paris, il me semblait que les grands magasins faisaient partie des lieux les plus emblématiques de la capitale, de ceux qu'on a envie de voir, de visiter, et nous sommes gâtés de ce point de vue. J'espère d'ailleurs que ces périodes de confinement ne les auront pas trop esquintées, ces grands magasins, qu'ils vont pouvoir
repartir. Dont on lèche les vitrines tous les ans.
C'est une merveille. Et puis les coupoles, hein, puisque tous ces grands magasins, alors certains le mettent en avant, d'autres pas, mais tous ont des coupoles incroyables.
Oui. Et puis, et donc, ensuite, des thématiques. Quoi, hein. Il y a la France de la mémoire, la France des vignobles, la France des jardins, des sites naturels. Quoi.
Souvent, les guides réunissent tous les sites par route, vous savez, par route touristique, ou par région, ou par, pourquoi pas, par département. Mais là, pas du tout. Là, nous avons une sélection qui se fait par thème. Et je trouvais que ça, c'était un moyen de montrer, parce qu'il y a quand même une intention derrière tout ça, évidemment. Mon but, c'était de montrer l'incroyable richesse de ce pays du point de vue du patrimoine, du point de vue de tous les trésors à voir. Et là, je trouvais qu'en mettant en avant ces thématiques, eh bien, on voyait que dans tous les domaines, que l'on parle des musées ou que l'on parle des sites religieux, que l'on parle des jardins ou que l'on parle des châteaux, que l'on parle des sites naturels ou des sites préhistoriques, par exemple, eh bien, la France, à chaque fois, présente des sites qui sont parmi les plus remarquables du monde. C'est pas un hasard si nous sommes encore, et malgré tout, j'allais dire, la première destination.
Pourquoi malgré tout ?
Bon, parce que vous voyez à quel point on dirait que tout est fait dans notre pays pour décourager le tourisme. Nous avons entre les grèves, les désordres, la SNCF qui n'est plus à l'heure.
Non mais c'est vrai, on a l'impression que la France,
on dirait qu'on fait
qu'on disait pays de cocagne, qu'aujourd'hui c'est devenu l'enfer.
Eh bien, la France est un pays de cocagne. Il faudrait très peu de choses pour qu'elle redevienne la destination la plus fantastique qui soit, mais malheureusement, nous avons quand même le don d'en faire un enfer, c'est vrai.
Ouais. Et on parle aussi des lieux propices à la réconciliation d'État, ce qui est assez drôle, il y a le clos de Lucé, par exemple.
C'était l'ancien manoir de Clou, où a été reçu Léonard de Vinci lorsqu'il est arrivé en France. Il faut savoir que ce manoir de Clou, à l'époque, il était dans les dépendances de la reine-mère. Elle n'avait même pas ce titre, de Madame la Grande, Louise de Savoie, qui était la mère de François Ier. C'est sans doute elle qui a fait venir, en vérité, Léonard de Vinci. Et il va pouvoir, comme ça, passer les trois dernières années de sa vie au calme, dans un très bel endroit. C'est la famille Saint-Brice, aujourd'hui, qui possède ce clos Lucé. Et ça, c'est une occasion pour moi de faire un petit clin d'œil à notre Gonzague, qui n'est plus là depuis des années maintenant. Il nous manque beaucoup. Il aimait, lui, le patrimoine comme personne. Et donc, cette famille Saint-Brice a organisé dans le clos Lucé une évocation de Léonard de Vinci. D'abord, on a l'impression de se promener dans la maison telle qu'elle était de son temps. Et puis, vous savez qu'ils ont reconstitué, ils ont fait des maquettes avec les inventions du maître.
Ouais. Absolument, mais je parlais de réconciliation, puisque en 2019, notre président Emmanuel Macron y a rencontré le président italien.
J'étais là, d'ailleurs,
suite à un problème diplomatique, justement, sur Léonard de Vinci.
Oui, tout à fait. Il se trouve que j'étais présent ce jour-là. C'était le jour du 5e centenaire de la mort de Léonard. Est-ce que Léonard est italien ou français ? De toute façon, l'Italie, à l'époque, n'existait pas.
En tout cas, il est mort
Léonard
en France.
Léonard est un Florentin qui s'est exilé à Milan, qui ensuite a dû se rabattre au Vatican. Il a vécu à Rome quelques temps, avant qu'on le fasse venir en France, où il a fini ses jours. Voilà la vérité. Cette journée était remarquable parce qu'on avait organisé au Clos Lucé une table ronde. Et à cette table ronde participait Boris Cyrulnik, participait Jacques Rougerie, le grand architecte, etc. Et chacun donnait sur Léonard sa vision. Et je vous avoue que j'en garde un souvenir très ému.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Macdin.
Et pour retrouver Patrick Roger et Cécile de Minibus, rendez-vous dès lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité Raphaël Dohan, le premier adjoint au maire du PEC. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio et merci à tous pour votre fidélité. On va retrouver dans un instant André Bercoff dans tous ses états. Mais d'abord, on va s'écouter le nouveau Boulevard des Airs. C'est en fait une nouvelle version de l'un de leurs titres phares, mais revisité en un titre festif et dansant qui s'annonce déjà comme le prochain tube de l'été. Voici Dis-moi comment tu danses sur Sud Radio.
Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
L'amitié, c'est les cœurs, les amis. C'est ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux. Quand t'es pas hyper juste, ça arrive. Ils s'arrêtent pas, les cœurs. C'est difficile de définir l'amitié, la vraie. Et quelque part, c'est très simple. Quelque part, c'est très simple. C'est quand
tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas les cœurs, non, ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. C'est ceux qui sont encore là après toutes ces années, après toutes les distances, après toutes les crises. C'est ceux qui sont encore là, vraiment là, et malgré tout. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple, c'est quand.
Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas les cœurs, non. Ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses. Dis-moi comment tu danses.
Dis-moi comment tu danses dans le meilleur de Sud Radio, toute nouvelle version du titre de Boulevard des Airs, extrait de l'album Loin des yeux. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait jeudi Raphaël Dohan, agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'ENA et premier adjoint au maire du PEC, venu présenter son dernier livre, Le rêve de l'assimilation. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Alors l'assimilation, qu'est-ce qu'on en parle? Rêve ou cauchemar, effectivement, je disais, de la partition. Vous savez, quand on entendait l'ancien ministre de l'Intérieur qui disait « Nous étions côte à côte, eh bien nous risquons demain d'être face à face ». Et cette fameuse assimilation, il y a eu beaucoup de livres là-dessus, effectivement, intégration, assimilation, de quoi on parle et tout ça. Et ce livre, alors je vous le recommande vraiment, auditeurs de Sud Radio, parce que ce livre vient non seulement à son heure, mais il remet en perspective. Et là, c'est l'agrégé de lettres classiques, l'historien, l'ancien élève de l'École normale supérieure, je parle même pas de l'ENA. Vous parlez en fait, justement, de ce que c'est que l'assimilation. Et vous montrez que l'assimilation, c'est pas du tout ce qu'on donne aujourd'hui. On est dans un débat politique, il faut bien le dire. Dans un débat politique, communautaire et autres. Et on dit, ah oui, intégration c'est fini, l'assimilation, mais l'assimilation, n'en parlez plus, ça n'a aucun sens. Alors on va essayer justement avec vous, Raphaël Dohan, on va prendre... Rappelez-nous, dans l'histoire, c'est quoi l'assimilation? Est-ce que l'assimilation, bon, ça n'a pas commencé avec les grottes de Lascaux, mais avec les empires, c'est bien ça?
Absolument. En fait, l'assimilation, je la définis de manière très simple. C'est un phénomène par lequel on exige des étrangers, quels qu'ils soient, qu'ils se comportent de la même manière que les habitants du pays d'origine. Alors effectivement, ça peut être le résultat d'une conquête impériale, c'est-à-dire voilà, les Romains qui conquièrent les Gaulois, ils demandent aux Gaulois de se comporter comme des Romains.
Et quand vous êtes à Rome,
faites comme les Romains. Faites comme les Romains. Exactement. Mais ça peut être l'inverse, évidemment, et c'est plutôt le phénomène qu'on a récemment, où c'est une immigration, c'est-à-dire des étrangers qui viennent dans le pays, et dans ce cas-là, c'est le pays d'accueil qui demande aux étrangers de se comporter comme les gens du pays d'origine. Donc c'est vraiment une exigence, en fait, assez simple, assez concrète, en fait, c'est de vivre dans la vie quotidienne selon les mœurs, la culture, le mode de vie de ceux qui sont majoritaires. Et c'est pour ça que je la distingue de ce dont on parle en général plus souvent, c'est-à-dire effectivement l'intégration, par exemple, qui exige, par exemple, de se conformer aux lois et aux valeurs de la République. Mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus abstrait, les lois et les valeurs de la République. Et en fait, je pense que si aujourd'hui on a autant de débats, de polémiques assez brûlantes sur ces questions d'identité, d'islam, d'immigration, d'assimilation, c'est justement parce que le problème, il concerne en fait la vie quotidienne. C'est-à-dire le fait de porter le voile ou pas porter le voile, de serrer la main aux femmes ou pas serrer la main aux femmes, etc. Et pas vraiment des questions en fait de respect des lois. En tout cas pas de respect de la République, qui est un concept beaucoup trop abstrait pour ça.
Oui, mais alors, justement, mais sur quel... Parce qu'on dit toujours les valeurs de la République, etc. Mais quand vous dites ça, alors respecter effectivement la vie quotidienne, ça veut dire quoi ? Respecter culturellement, respecter les mœurs, respecter l'état de la civilisation dans laquelle le pays d'accueil est, c'est quoi ? Parce que vous dites vous-même ici, il y a la diversité des origines, et on doit la garder, vous dites qu'il ne faut pas renier ces origines, mais en même temps vous dites l'unité culturelle. C'est quoi cette unité culturelle ? Comment vous la définissez concrètement ?
Exactement. En fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que on s'était rendu compte lorsque Nicolas Sarkozy avait fait le débat sur l'identité nationale en France que c'était effectivement difficile de définir ce que c'est qu'être français. En tout cas, on peut pas faire une phrase qui dit voilà, être français, c'est ça. Être français, c'est on fait un paragraphe pour le décrire. Je pense que c'est vraiment un ensemble de plein de petites choses qui concernent l'alimentation, les rapports entre les gens, entre les hommes et les femmes.
Les hommes et les femmes.
Voilà, exactement. Entre aussi les différents le rapport à l'autorité, le rapport à la ville. Enfin, y a énormément de choses qui rentrent dans tous les aspects de la culture et des mœurs, et auxquelles, quand on s'assimile, en fait, qu'on essaye d'imiter. C'est-à-dire que ça se définit pas, mais c'est un peu comme essayer de définir la couleur rouge, par exemple. C'est difficile de définir la couleur rouge avec des mots, mais on sait très bien en même temps ce que c'est, que la couleur rouge. C'est évident. Et donc, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, celui qui veut s'assimiler à une population, il l'imite, mais en fait, il l'imite par évidence quand il est dans le bain de cette population. Parce qu'il reprend des modes de parler, des façons de parler, des façons de se comporter.
Et qu'il s'est plongé dans le bain avec volonté et avec nécessité de faire partie
des majeurs. Et qu'il n'a pas de rejet, voilà, de cette population-là. Il faut au contraire qu'il ait envie de ressembler à cette population. Mais à partir du moment où il est plongé dans le bain et qu'il a envie, justement, ou qu'il n'a pas d'opposition à ce travail de ressemblance, ça vient tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin de définition d'une identité nationale, il n'y a pas besoin de texte, en fait, qui dit à quoi on doit ressembler. Ça se fait spontanément par le contact, en fait, le frottement entre les populations.
Oui, mais alors, justement, qu'est-ce qui se passe quand... on vient dans le pays, etc., pour parler de ça, mais qu'on n'a pas envie de plonger. C'est-à-dire qu'on a envie de se raccrocher plutôt à ses origines et que les origines deviennent l'identité. Et là, vous posez la question, et je crois qu'il est fondamental, la question de l'autre. Est-ce que l'autre est perçu comme un adversaire, même si on a la carte d'identité, ou l'autre est perçu comme une voie d'enrichissement, de part et d'autre, d'ailleurs, les Français, pour ne parler que de la France, ou autre. Et effectivement, la question de l'autre, elle est au cœur de cette histoire.
En fait... Pour que ça marche, il faut que... On ne demande pas forcément, dans l'assimilation, d'abandonner tout lien avec ses racines, avec son pays d'origine, avec sa culture. Ce qui compte, en fait, c'est de vérifier qu'il y a une conformité, enfin d'interpréter de manière conforme notre culture d'origine à la culture d'accueil. C'est-à-dire, un immigré vient en France, et il faut en fait qu'il arrive à trouver une manière, mais c'est un travail intérieur en fait, d'interpréter sa culture d'origine comme étant conforme à ce qu'on attend de lui en France. Et vraiment, il y a beaucoup d'immigrés qui font ça d'ailleurs, dans toutes les communautés. Individuellement, on a des gens qui se disent finalement... Être français ne veut pas forcément dire que je suis traître à ma culture d'origine. En revanche, ça veut dire, par contre, qu'il faut éliminer ce qui est perçu par les Français comme étant quelque chose d'inacceptable en France. Typiquement, voilà, ne pas serrer la main aux femmes, c'est, pour prendre le même exemple, c'est quelque chose qui, pour l'extrême majorité des Français, est absolument inenvisageable, et donc ce sont des choses qui doivent être éliminées.
Ben,
voilà, mais en fait, et c'est pour ça que vous parliez du fait que c'est un livre d'histoire qui revient sur le temps long, les Romains, par exemple, ont fait ça avec la plupart des populations qu'ils avaient conquises. C'est-à-dire que les Gaulois n'ont pas été obligés de renoncer à beaucoup de traits de la culture gauloise. Et par exemple, il y a des dieux gaulois dans lesquels ils ont été ravis de reconnaître en fait des dieux romains. Et inversement, c'est-à-dire qu'on disait finalement, voilà, tel dieu gaulois, en fait c'est Jupiter. Et donc ça marche.
L'Empire romain a assimilé
Les moi, je pense que l'Empire romain, effectivement, a assimilé. Alors, les historiens parlent de romanisation. Mais en fait, c'est ça. L'assimilation, même si le mot lui-même, on y reviendra peut-être, il date du 19e siècle, 18e siècle. Mais le phénomène, il a existé en tout temps, en fait. Et la romanisation, c'est peut-être, en Occident, le phénomène le plus efficace ou le plus massif qu'on ait eu d'assimilation.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Et pour retrouver André Berkoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de lundi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses invités sont revenus sur la réplique française de la Statue de la Liberté qui va s'envoler pour les États-Unis en l'honneur de la fête nationale de l'indépendance américaine. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Michel Taube, un coup de cœur ?
Oui, un coup de cœur. Il y a une réplique de la Statue de la Liberté qui va partir du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris vers New York puis Washington dans l'ambassade de France aux États-Unis. Alors je pouvais pas ne pas en parler parce que je suis colmarien et comme tout le monde sait, Auguste Bartholdi qui a construit cette très très belle statue était colmarien, donc à Colmar on a du Bartholdi partout, lycée Bartholdi et autres institutions. Vous à Sud Radio vous connaissez bien aussi parce que presque en face de vos bureaux, vous avez une très belle
Statue de la Liberté,
la Liberté en miniature. Et voilà, je trouvais que c'était une belle initiative qui est prise. Donc, une réplique de la statue va partir la semaine prochaine, le 7 juin, et arriver le 4 juillet pour la fête nationale de l'indépendance américaine aux États-Unis. Et donc, on aura une quatrième statue, parce qu'il y en a déjà une qui est à Paris dans le CNAM, en plus de celle qui est en face des bureaux de Sud Radio. Voilà, je trouve que c'est bien de saluer l'amitié franco-américaine et c'est une belle initiative.
Et si jamais la maire de Paris nous écoute, qu'elle aille voir la Statue de la Liberté, car il y a des plaques de béton qui se décrochent de la structure, de la base, donc un petit peu d'entretien ne ferait pas de mal à cette statue.
Et puis il faudrait d'ailleurs fleurir les Statues de la Liberté, il faut fleurir la liberté qui disparaît partout dans le monde.
Allez,
on va demander à Stéphane Bern de signer une tribune dans Sud Radio pour demander qu'il l'entretienne mieux. Mais je suis d'accord avec vous, Valérie, je trouve que c'est un très très beau monument de Paris et qui a beaucoup de sens et elle est si belle.
Alors, on va parler tabac. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée contre le tabagisme. Christine Bouillot, c'est votre coup de gueule.
Oui, triste. Triste de voir que la pandémie, alors nous dit-on, c'est pas forcément à cause de la pandémie que les gens ont repris la cigarette, mais triste de voir que les efforts qui ont été menés pour tenter d'empêcher les gens de commencer de fumer ou d'arrêter de fumer, se soient stoppés net l'année dernière et qu'on reparte à la hausse. 75 000 morts par an, rien qu'en France. C'est colossal. Il y a pour moi deux petites choses qui me chagrinent ce matin. Ce lundi matin chagrin, comme dirait l'autre. C'est d'une part le manque d'ambition de la part des autorités ces dernières semaines pour justement prévenir les risques de reprise de consommation du tabac liés à la pandémie. Enfin, en tous les cas, c'est pas la pandémie, mais c'est les effets collatéraux de la pandémie. Aujourd'hui, rappelons quand même que les bureaux de tabac sont restés ouverts. C'était les seuls, d'ailleurs, pendant toute la période de confinement avec d'autres moyens de magasins de première nécessité. Et puis de pas remettre l'accent très vite sur la prévention, parce que ça touche les plus fragiles, les plus modestes, et on sait les dégâts ravageurs que ça provoque et la difficulté que... Voilà. Amusé aussi de voir que tous ceux qui sont contre les vaccins, contre l'industrie des big pharma, ne s'insurgent pas contre l'industrie du tabac qui fait en sorte que les gens continuent de s'empoisonner doucement. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça amusé, mais c'est véritablement une journée. Il faut remettre l'accent parce qu'on a vu
journée sans tabac, difficile. Journée mondiale sans tabac. Et vous avez raison, Christine. Moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends les anti-vaccins, comme vous dites, dire on ne sait pas ce qu'on nous injecte, mais beaucoup d'entre eux fument.
C'est ce qu'on fume.
Qu'y a-t-il dans vos cigarettes ? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les cigarettes ?
Moi, je suis allée une fois dans un centre anti-tabac, dans un CHU. Rappelons que les Covid longs sont soignés aux côtés de ceux qui veulent arrêter de fumer. Mmh. On voit le parallèle. Donc, c'est véritablement quelque chose d'important. Mais quand vous mettez sur la table les paquets, les produits initiaux qui sont dans la cigarette, c'est vrai que quand vous fumez, vous vous dites, oula, il va peut-être falloir que j'y réfléchisse. C'est un choix, c'est une liberté, je l'accorde, hein, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est quand même dommage que sur la question de la prévention et de la santé, eh bien, on ait un peu relâché les choses, ouais. Parce que le tabac tue 75 000 personnes, et ces 75 000 morts, sans doute évitables.
J'ai pas dit, quelqu'un me dit, encore une généralité déplacée, les complotistes sont pour le tabac, j'ai pas dit ça, j'ai dit que les anti-vax qui fument ne se posent pas la question de savoir ce qu'il y a dans le tabac.
Il y a d'autres choses aussi dangereuses que le
voilà,
vaccin, c'est ça.
Absolument. Alors Sophie,
alors,
je voudrais
compléter parce que je suis évidemment d'accord sur le fait que le tabac est dangereux pour la santé, mais encore une fois, la langue de bois, les mauvaises méthodes, la technique française, ça va pas du tout. J'ai un vrai coup de gueule, c'est la journée anti-tabac, c'est vrai, mais j'ai un vrai coup de gueule contre l'État, finalement, contre l'État qui gagne 17,6 milliards de recettes fiscales grâce au tabac. Et ce qui est extraordinaire, parce que j'ai essayé en tant que présidente d'un mouvement patronal, avec il y a Philippe Maurice qui est en train d'essayer de faire des efforts. C'est vrai que c'est une entreprise...
Non, mais ça, je ne peux pas entendre ça.
On
n'a
même pas le droit
ça.
De prononcer le nom. Il y a une entreprise de tabac qui est la plus grosse du monde, voilà. On la cite
la
pas.
Plus
non, mais attendez, parce qu'une seconde, je veux dire, on ne peut pas... C'est extraordinaire, la censure.
Non, mais moi, quand j'entends, c'est pas de la censure, quand j'entends qu'une entreprise qui vend du tabac fait quelque chose pour la prévention,
vous n'avez pas entendu ce que j'allais dire. Ils ont besoin, parce que c'est leur gagne-pain, de trouver des solutions pour remplacer, parce que ça va finir par être interdit. Donc, c'est les plus grandes recherches. La cigarette électronique, donc dans cet univers, ils sont fixés comme objectif qu'ils arrivent à gagner de l'argent sans vendre de tabac dans les 5-6 ans à venir, dans les 6-7 ans. Il y a des pays entiers qui ont décidé que le tabac allait s'arrêter. Bon, ça c'est une chose. Il se trouve qu'à la tête d'une entreprise, comme une autre, qui est d'ailleurs impeccable sur la parité, sur plein de choses, la présidente est convoquée à Bercy pour une question d'égalité homme-femme parmi les très grandes entreprises. Elle arrive, c'est Madame Moreno qui était là, elle est virée dans le quart d'heure qui suit. Sortez, vous représentez le diable. Vous représentez le tabac. Mmh. Elle est virée. Elle, c'était une femme. Les autres, il y avait le président de Total. Bon, il fait des choses très bien, certainement, mais il a aussi des choses qui sont critiquables. Elle a été virée de façon absolument incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que j'avais essayé, donc, au nom d'éthique, qu'ils se parlent, parce que je pense qu'il faut que les industries de tabac parlent. Eh bien, personne au gouvernement, je dis bien personne, aucun, ni le ministère de la Santé, ni le ministère de l'Emploi, etc., ne veut leur adresser la parole. Par contre, ils touchent 17,6 milliards de recettes fiscales.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous bien sûr dès lundi, dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu comme toujours en humour à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci d'être fidèle à cette émission tous les week-ends. Avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter l'un des plus gros succès de Sade. C'est aussi leur single le plus réussi au niveau international puisqu'il a atteint la 5e place au Billboard Hot 100 et la 9e place du Top 50 en France. Ce titre entraînant parle d'un homme de la jet set qui attire toutes les femmes et qui brise des cœurs lors de ses voyages. Voici Smooth Operator sur Sud Radio.
Smooth Operator dans le meilleur de Sud Radio, extrait de l'album Diamond Life de l'excellent groupe britannique Sade. Comme chaque week-end, on va terminer avec la chronique de Cédric Cizère. Mercredi, il a répondu à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Et après avoir abordé avec humour les enfants surdoués, il est revenu sur cette histoire de patronyme patriarcal qui suscite d'ailleurs une vive polémique. Écoutez.
Et il est là, tout frais, tout chaud, comme le croissant,
oh,
ou la chocolatine, ou le pain au chocolat. C'était Cédric Cizère qui est avec nous.
Bonjour mes chers compatriotes.
Oui.
C'est vrai que je ressens un peu une chocolatine, je suis gras comme une chocolatine, et ça me fait plaisir. Vous allez bien, vous êtes en forme?
On est très très en forme.
Ouais, vous connaissez les Soudoués?
Ah oui, avec Daniel Auteuil et Galabru.
Non, avec Olivier Véran et Jean Castex.
Ah bon, d'accord.
C'est une autre version. C'est un peu différent.
Plus actuel.
Et plus actuel. Il y aurait pu avoir les Soudoués à Roland-Garros aussi.
Ah oui, ah oui.
Vous avez vu, parce que d'habitude on dit oui, il n'y a plus de Français en deuxième semaine. Là, il n'y a plus de Français au deuxième jour. C'est un truc de fou. Vous avez vu, 29 Français au départ. Il n'y en a plus que 7 déjà.
Oui. Il en reste quelques-uns.
Il en reste 7. Vous vous rendez compte, 29 à 7, je ne suis pas très bon en maths, mais ce n'est pas compliqué. Et justement, ce n'est pas compliqué, mais je vais vous parler des surdoués. Vous avez vu, les surdoués, ceux qui ont un QI supérieur à 130. Comme nous, sauf que nous, on a 130 à nous trois.
À plusieurs, oui.
On est trois pour l'avoir. Et il y a seulement 2% de la population qui est surdouée. Le magazine Le Point nous explique qu'il y a de plus en plus de personnes persuadées d'être dans ce profil. Et vous avez peut-être remarqué que vous pouvez parler à un parent, il n'y en a pas un qui te dira pas que son gosse est surdoué.
Oui, c'est
vous
ça.
Avez vu ça ou pas?
Oui, bien sûr.
C'est quand même, non mais Timéo, il est précoce intellectuellement, tu vois. S'il est encore en CM2 à 17 ans, c'est parce qu'il est surdoué, il s'ennuie, c'est tout. Mais il s'ennuie pas, Timéo, il est nul, il comprend rien. Tu lui parles de la VAR, il croit que c'est l'arbitrage vidéo dans le foot. Il a rien compris, le mec. Donc arrêtez avec ça, c'est insupportable, les parents qui croient que leurs enfants sont au-dessus de tout le monde.
Mais ils les aiment, leurs enfants.
Oui, mais il faut arrêter. Bon, nous, on a la chance d'avoir un auditeur surdoué. En même temps, je crois que tous nos auditeurs sont surdoués. C'est ce que vous me disiez, Patrick,
vrai.
On a les statistiques qui sont arrivées
et
ce
eux,
matin.
Ils le sont vraiment.
Ils le sont vraiment. Ouais. On écoute cet auditeur surdoué.
Salut Cédric, c'est Raphaël.
Ouais, salut.
C'est quoi les bails? Moi je suis surdoué. J'ai un QI de 190, tu te rends compte?
Ah ouais.
Le double de la moyenne nationale. Eh oui mesdames, chez moi il y a tout qui fait le double de la moyenne nationale. Sur tout dans mon slip.
Oh, mais non, mais Raphaël, non, mais non, mais dans ton slip.
Mais pas si jeune.
Mais à 7 ans, arrêtez avec
non,
ça.
Non, c'est pas possible.
Mais non, alors le QI, on en parle beaucoup puisque Didier Raoult hier a dévoilé son QI, vous avez vu ça? Très modestement,
très, élevé, hein.
Très modestement, il aurait 180 de QI. Einstein avait 160.
Ouais.
Bon, ben, il est nul à côté. Franchement, je pense qu'à force d'habiter à Marseille, Raoult, il fait comme on fait tous avec les chiffres. Il multiplie tout par 3.
Ah ouais.
C'est la technique qu'on fait.
On sait pas, peut-être.
Bon, j'y crois pas, parce qu'à 180 de QI, lui, il croit toujours que la chloroquine peut permettre de ressusciter les morts. Donc, je suis pas certain que la chloroquine fonctionne. Mais bon, depuis quelques années, vous avez vu, on découvre des associations. Il y a des associations de surdoués, il y a des associations de tout.
Oui.
Il y a des collectifs sur tout et n'importe quoi.
Ah ouais.
Vous avez vu ça, les associations qui ont deux passions, emmerder le monde et porter plainte.
Oui, c'est ça.
C'est les deux passions d'un collectif et d'une association. Alors, pour pratiquer ces deux passions, vous savez la condition obligatoire requise ou pas?
Oui.
N'avoir que ça à foutre dans la vie.
Ah, c'est ça.
C'est n'avoir que ça à foutre pour tout surveiller et porter plainte. Et là, on a un collectif, le collectif Porte Mon Nom, qui veut mettre fin au patronyme patriarcal. C'est-à-dire qu'il veut qu'à la naissance, on donne automatiquement les deux noms de famille au bébé et plus seulement celui du père. Comme les Portugais, un peu, qui font ça, vous avez vu. Les Portugais, ils font ça. Ça marche très bien. Hein. Pedro, Miguel, Carreiro, Resendez, Pauleta, par exemple.
Par exemple, oui.
Voilà, par exemple. Mais bon, le temps de dire le nom entier du bébé, il fête ses 18 ans. C'est ça le problème. Et il y a une auditrice dont on n'avait pas une nouvelle depuis longtemps et je sais qu'on se faisait un peu de soucis pour elle. Elle nous a laissé un message.
Ah, très bien.
Bonjour, c'est Marie-Clotilde, militante féministe et présidente du CLHS TDGC. Le comité, les hommes sont tous de gros connards.
Voilà.
Hey, ça fait longtemps, hein. Bah ouais, ma meuf m'a mise à la porte parce qu'elle m'a grillée en mauvaise posture avec sa mère.
Et voilà.
Ouais, bref, c'est honteux d'obliger les bébés à porter les deux noms de famille.
Ah bon?
Faut les obliger à porter seulement le nom de la mère, c'est tout.
Eh oui.
En 2021, on n'a plus besoin de vous, messieurs. Vous êtes comme le shampoing pour Cédric Cizère. Inutile.
Ah bah merci, dis donc, elle est cachée, hein.
Merci, mais en plein temps, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, c'est pour ça. Alors, je précise qu'on peut choisir de donner les deux noms à nos enfants depuis longtemps, depuis 2002, mais il y a seulement 5% des parents qui choisissent de faire ça. C'est beaucoup, 5%, franchement.
Oui.
Ah, c'est énorme. Ah ouais, non, mais si on te dit que tu as 5% d'augmentation, c'est nul. Mais si tu dis à Nicolas Dupont-Aignan qu'il va avoir 5% aux élections présidentielles, c'est énorme pour lui. Mais c'est énorme. Ah non, mais 5% aux présidentielles pour Dupont-Aignan, il court tout nu dans les couloirs de Sud Radio.
Oui, peut-être.
Bon, ça n'arrivera jamais. Hein.
On lui demandera.
Ça n'arrivera jamais. Bon, je parle des 5% parce que Nicolas Dupont-Aignan, à chaque fois qu'il vient chez une radio, il court tout nu dans les couloirs. Moi, ça me perturbe. Je ne viens plus. Alors, la question, c'est de savoir, Patrick, est-ce que ces 5 personnes qui veulent des noms de famille obligatoires vont réussir à l'imposer à tout le monde, comme d'habitude?
Oui.
Parce qu'en général, on impose. Quand il y a 5%, on impose. Parce que dans 10 ans, les élections se feront plus à la majorité, mais à la minorité. Je vous l'annonce ce soir.
Hein. On y arrive, on y arrive.
Oui, ce soir, parce qu'on est ce soir. Alors, moi, je trouve bien d'avoir les deux noms, mais ça peut poser des problèmes. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Dan. Voilà. D'accord. Très bien, je peux vous dire qu'il est très content d'avoir que le nom de son père, parce que sa maman s'appelle Ton Cul. Et le problème, c'est que si on met les deux, ça fait Stéphane dans ton cul. Et à l'école, c'est pas terrible ça, vous voyez, quand on fait l'appel, ça va pas du tout. Eh, je vous avais, il faut interdire cette proposition. Et pour finir, la Ligue contre le cancer dénonce 90% des films français qui comporteraient une présence du tabac d'une manière ou d'une autre.
Ouais, c'est vrai.
Alors ça, c'est terrible, et ça serait inciter les jeunes à fumer. Alors nous, on fume pas, on est les trois seuls en France à ne pas fumer. Bravo.
Il y en a d'autres, il y en a d'autres. On les félicite, bravo.
On est sept. Alors c'est n'importe quoi, parce que inciter les jeunes, c'est faux. Moi, Dora l'exploratrice, elle fume pas. Pourtant, mon fils de 4 ans, il fume 3 paquets par jour. Et ça n'a aucun rapport. Moi, je fume pas parce que déjà, je suis pas millionnaire. Oui. J'ai pas les moyens. Et surtout parce que je me dis que des poumons en bon état, ça peut toujours servir. Quand même. Ça peut servir.
Alors pour les fumez pas, c'est pas
ne
bien.
Fumez pas, voilà. Et bientôt, comme dans Lucky Luke au Colombo, il y aura plus de cigarettes dans les films. Mmh. Alors que dans les films français, les seules scènes d'action, quelquefois, c'est quand ils allument leur cigarette. Il y a rien d'autre qui se passe. Ah non, mais c'est terrible. Et dans Tarantino, par exemple, t'interdis la cigarette, les films ils dureront plus 3 heures, mais 3 minutes. Donc c'est un peu compliqué. Et Jean Castex, il fume pas. Vous voyez, il est comme nous.
Ah bon, il fume pas.
Ah, il a une vie d'asset.
Ah, vous le savez.
Il se lève à 11h, okay. Il se couche
vous
à 19h.
Savez tout sur Jean Castex.
Je sais tout. On est comme ça. Vous savez bien. Alors, est-ce qu'il veut interdire la cigarette dans les films français? Et la réponse de Matignon.
Française, Français, le gouvernement refuse d'interdire la cigarette dans les longs métrages car il n'y a aucun risque de reproduction.
Ah bon, mieux. Ok.
En effet. Si nous les hommes étions capables de reproduire tout ce qu'on voit dans les films du samedi soir, nos femmes arrêteraient de nous les briser.
Mais... Oh non, il n'est pas capable de dire ça, Jean Castex.
Si, c'est... Ah si, je vous assure. Non, bah, non, c'est pas moi, il n'y a aucune triche là-dedans, hein, je vous assure.
Vous croyez.
Ah non, mais il n'y a rien, vraiment, tout est réel. Hein, tout
bien
est
sûr, mérite. Tout est réel et c'est pour ça qu'on aime.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizer, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans la matinale, aux côtés de Patrick Roger et de Cécile de Minibus. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.